Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Fais Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles, vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation, sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du Village Fais Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois, car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Chloé et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo Fais Dodo.
Bonjour.
Chloé, je te remercie d'intervenir aujourd'hui sur le podcast, d'avoir répondu oui à notre invitation. Nous allons parler avec toi du postpartum, des difficultés que les mères peuvent rencontrer en postpartum par rapport à l'expérience que toi tu as pu vivre, mais aussi par rapport à tout ce que tu as pu sourcer, tout ce que tu partages autour de ça aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux nous dire deux mots justement sur qui tu es et sur ce que tu as pu... ce qui t'a amené aujourd'hui bah justement à parler de tout ça.
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Chloé, j'ai 35 ans, je suis sur mon couple, j'ai une petite fille qui a 6 ans et je suis de formation, je suis infirmière depuis 2014 et j'exerce depuis 2 ans en tant que consultante en périnatalité. Mon parcours, c'est d'avoir beaucoup travaillé auprès des enfants, en pédiatrie, en néonat, en tant qu'infirmière, voilà. Et quand ma fille est née, j'ai fait une dépression postpartum qui a duré 2 ans, pour laquelle j'ai pas été, disons, accompagnée comme il aurait fallu. J'ai pas trouvé les ressources. En tout cas, j'ai pas eu l'occasion d'avoir des ressources, en tout cas pour, d'une part, être diagnostiquée et d'autre part, du coup, pouvoir aller mieux. Et donc, j'ai erré comme ça pendant 2 ans avec... ça a commencé rapidement après sa naissance. Hein, je l'ai aimé tout de suite très fort et en fait, ça a déclenché chez moi... ça a réveillé beaucoup de traumatismes, en fait, chez moi. Les traumatismes... voilà, j'ai eu une enfance très difficile avec de la maltraitance, de l'inceste, etc. Et donc, ça a réveillé en fait tout ça. L'arrivée de ma fille a réveillé tout ça. Et donc, j'ai rapidement eu des angoisses. J'ai ressenti énormément de tristesse. J'ai été très, très en colère, beaucoup d'irritabilité, beaucoup de culpabilité. Je ne dormais plus. J'avais une hypervigilance extrême. Enfin voilà, du coup ça a été très compliqué et je me suis rapidement dit bon bah t'es pas faite pour être mère, t'es nulle. Voilà, tout ce schéma assez classique de la dépression postpartum et je suis du genre à m'accrocher, donc je me suis accrochée comme ça et quand ça a été terminé, j'ai pas de moment précis mais grossièrement au bout de 2 ans, je me suis dit, c'était le premier confinement et je me suis dit c'était quoi là le bus qui m'est passé dessus. Et j'ai eu besoin de comprendre et donc du coup j'ai fait des recherches et en fait je suis tombée sur des articles qui parlaient de dépression postpartum. Je me suis reconnue tout de suite, donc je me suis dit ok, t'as traversé ça, donc j'étais tout de suite très en colère. Je suis tombée sur le site de Maman Blues que j'ai parcouru en long, large, en travers et je me suis dit purée. Et du coup j'ai eu besoin en fait d'exprimer cette colère mais aussi de partager en fait ce que j'avais vécu, de parce que j'ai rapidement compris quand même que j'étais pas seule et je me suis dit mais on n'en parle pas en fait, on nous dit pas, on nous prévient pas en fait que ça peut, enfin qu'on n'est pas forcément heureuse quand on devient mère et que ça peut brasser autant de choses. Et du coup, j'ai créé un compte Instagram sans savoir utiliser Instagram pour partager, sensibiliser, témoigner. Enfin voilà, j'avais besoin de m'exprimer sur ce sujet sans trop savoir où ça allait mener. Et en parallèle, je me suis inscrite pour passer un diplôme universitaire en psychopathologie périnatale parce que j'avais besoin d'éléments concrets, de comprendre ce qui se jouait dans cette période périnatale, dans la tête des mères notamment. Et puis j'ai fait une thérapie, j'ai trouvé la bonne personne cette fois-ci pour comprendre pourquoi je m'étais autant... pourquoi j'avais autant trébuché sur ma maternité, pourquoi ça avait été aussi difficile. Et au bout d'un an, j'ai fait tout ça, ces trois choses-là en parallèle. Et enfin, du coup, j'ai beaucoup grandi en un an, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai beaucoup compris et je me suis dit, j'ai envie de partager ce que je sais, cette expérience aussi vécue qui peut permettre peut-être d'aider certaines personnes. Et du coup, je me suis mise à mon compte en tant que consultante en périnatalité pour accompagner en fait les femmes dans des difficultés diverses qu'elles peuvent vivre dans cette période périnatale pour leur donner des clés, des outils, réfléchir ensemble, etc. Voilà, donc ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans du coup que je fais ça. Et en parallèle, je fais partie de l'association Maman Blues. Je suis co-référente de la Seine-et-Marne, on est 3. Et je co-écris aussi avec Élise, qui est la présidente de l'association pour Instagram depuis déjà un peu plus de 2 ans, pareil. Et le compte Instagram a beaucoup grandi, en fait. Il y a eu beaucoup de... ce que j'ai écrit a dû plaire, parce que ça, comme on dit. Et du coup, ça a créé des opportunités de pouvoir faire entendre sa voix, notamment. Je suis passée dans le podcast Bliss, ça a eu une audience assez importante. Et suite à ça, Larousse m'a proposé d'écrire un livre en coécriture avec Élise, du coup, parce qu'ils ont bien... Vous avez bien compris dans tout ce que je disais que Élise et moi, on est devenus rapidement proches. Et puis, je parlais beaucoup de l'association, de son travail, etc. Et donc, c'était une évidence qu'on écrive à deux parce que ça a potentialisé les connaissances, l'expérience. Enfin, Élise, elle a quand même plus de 10 ans d'expérience de bénévolat au sein de Maman Blues, donc elle a une expertise parfois meilleure que certains professionnels elle-même. Et donc, c'était une évidence. Et puis, on s'entend très bien, on fonctionne très bien ensemble. Donc, ça s'est très bien passé. Et donc, ce livre est sorti il y a un peu plus d'un an. C'était le 4 janvier 2023, du coup. Et voilà, c'est un livre qu'on a voulu à la fois... comprenant de la théorie, parce qu'on voulait que les professionnels, par exemple, puissent s'en saisir comme d'un outil en termes de connaissances, en termes d'explication de certains phénomènes, mécanismes, etc. Mais on voulait aussi que les mères ou l'entourage aussi puissent s'en saisir comme un message. En fait, on passe beaucoup de messages dedans, où il y a beaucoup de mots pour les mères, et puis surtout comme une ressource où on a vraiment tout un chapitre qui est dédié à vers qui on se tourne, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les acteurs de la prise en charge. Voilà. Et puis, il y a aussi un chapitre sur l'après, parce qu'on est toutes les deux des rescapées, parce que la dépression postpartum, on s'en sort. Et c'était important pour nous de montrer que déjà, il y avait un après, que c'était possible, qu'avec le bon accompagnement, on pouvait vraiment s'en sortir et voire même, après ça, vivre une vie parfois... plus heureuse que celle qu'on vivait avant, se trouver finalement là-dedans, parce que ça permet de faire le tri aussi, ça permet de mieux se connaître, alors même si ça se fait dans la difficulté, dans la douleur, mais ça permet de pouvoir briser certains schémas, régler certains traumatismes, voilà, ça met à jour des difficultés, mais pour pouvoir aussi avancer, et on voulait aussi mettre ça en avant, on voulait que ce soit un message aussi d'espoir pour les mères qui traversent ça. Voilà.
Ok, merci Chloé. Je pense que ça va parler à beaucoup, beaucoup de mamans, voire beaucoup de proches qui peuvent connaître ça justement pour des personnes de leur entourage. Alors, j'ai plein de questions pour toi. On va essayer d'aller sur différents éléments par rapport à ce que tu as rencontré, mais du coup aussi par rapport à ce que tu peux voir en tant que consultante autour de la périnatalité. Je voulais commencer avec quelque chose de très simple, ce terme de dépression postpartum. Est-ce qu'il est médicalement posé? Est-ce que c'est un médecin qui doit dire, bah là, madame, vous êtes en dépression postpartum? Est-ce que ça peut être, tu vois, quelque chose de très passager, quelques jours, 2-3 semaines, ou alors non, c'est parce que ça dure qu'après, médicalement parlant, on vient poser ce diagnostic?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, tout diagnostic, quel qu'il soit, qui concerne la santé physique ou psychique, doit être posé par un médecin, a priori. En tout cas, la santé, ce qui concerne la psychiatrie, ce sont des diagnostics qui sont posés par des médecins. Donc, voilà, seul un médecin peut dire, peut dire si c'est une dépression postpartum ou pas. Après, quand on est familiarisé avec le sujet, on identifie assez rapidement quand même certains signes, voilà, certaines situations. On a quand même une intuition sur ce dont il s'agit. Il existe une échelle qui s'appelle l'échelle d'Edimbourg, autrement appelée aussi EPDS, qui objective un petit peu, c'est une échelle chiffrée, hein, qui objective un petit peu ce diagnostic, en tout cas qui peut l'appuyer justement de façon chiffrée. C'est un score en fait, voilà, et puis au-delà d'un certain chiffre, au-delà notamment de 13, ben, on peut dire, voilà, éventuellement, on est sur une dépression postnatale. En tout cas, il y a des choses qui s'engagent, en tout cas dans ce sens-là, mais le diagnostic, il est double, il peut être à la fois... parce qu'on n'utilise pas toujours cette échelle-là, mais il peut être à la fois très chiffré et objectif, mais il faut toujours qu'il soit complété dans un diagnostic clinique. C'est-à-dire qu'il faut un échange, il faut, enfin, ça se passe aussi avec du non-verbal. Parfois, ça se lit aussi sur un visage, avec des comportements, une façon même de parler, une façon de poser sa voix, une façon de poser son regard. Voilà, c'est un tout. Ça peut pas juste être parce que j'ai au-dessus de 13 que bah du coup voilà, j'ai une dépression postpartum. Pas forcément, parce qu'il y a tout le reste en fait qui doit rentrer en compte, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on ne va pas dire aussi, et puis tout ce qu'on va être en fait, et puis tout ce qu'on va engager aussi comme comportement. C'est vraiment tout ça qui fait le tout. C'est un trouble qui est assez polymorphe, c'est-à-dire qu'il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être assez délicat aussi à diagnostiquer. Peut s'imbriquer aussi dans ce trouble d'autres troubles. Je pense notamment au trouble anxieux. Les deux sont très, très conjointement liés. Et d'ailleurs, souvent, coexistent, en fait, en même temps. Voilà, donc c'est assez délicat. C'est pour ça que c'est vraiment des diagnostics qui doivent être posés par notamment des médecins, voire des psychiatres, en fait, des personnes vraiment qui ont l'habitude, dont c'est le métier, et qui connaissent assez bien, de façon générale, ce trouble-là, et des personnes qui... Enfin, en tout cas, tous les caractères qu'il peut représenter, c'est-à-dire que tous les visages qu'il peut revêtir, si je puis dire ça comme ça. Parce qu'il peut y avoir vraiment plusieurs visages, il y a plusieurs degrés de gravité, donc... Voilà, c'est pas la même. Enfin, on peut des fois, ça peut des fois presque passer inaperçu parce que voilà, c'est un peu comme un serpent fluctuant. Et puis parfois, c'est très bruyant. C'est un trouble sévère qui va voilà, tout de suite être marqué par des idées suicidaires assez rapidement. Enfin, voilà, des choses qui vont être plus brillantes. La prise en charge, du coup, ne sera pas la même, par exemple. Après, la dépression postnatale, c'est dans sa définition, on dit que c'est tout trouble dépressif qui survient dans la première année de vie de l'enfant. Donc, c'est-à-dire que de la naissance jusqu'à un an, on peut déclencher une dépression postnatale. Ça ne veut pas dire qu'elle va être diagnostiquée forcément dans ce moment-là. Elle peut être diagnostiquée, par exemple, 2 ans après. Mais quand on fait l'anamnèse, en fait, on retrouve des signes très souvent au cours de la première année. En tout cas, dans la définition, ils se sont entendus sur... cette durée de la première année, c'est pas quelque chose de transitoire. C'est pas comme le baby blues, par exemple, le baby blues, quelque chose de transitoire. C'est-à-dire que la limite, c'est 15 jours, voire 3 semaines, si vraiment ça décroît. On est vraiment sur quelque chose de très marqué en termes de durée. la dépression postnatale, malheureusement, elle peut s'étendre vraiment sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce qui est certain, c'est que plus rapidement elle est prise en charge, plus rapidement on a des résultats et on peut s'en sortir du coup plus vite, quoi. Voilà. Donc, il y a un véritable intérêt à diagnostiquer, à avoir un diagnostic précoce pour pouvoir, du coup, avoir des soins, pareil, qui s'engagent rapidement derrière.
Et alors, par rapport à ton parcours personnel à toi, qu'est-ce qui fait que finalement, ça a mis autant de temps pour être diagnostiqué? C'est-à-dire que toi, tu t'es pas senti bien pendant deux ans, comme tu nous expliquais. Ouais. Est-ce que tu en avais parlé à ton médecin, mais finalement, comme tu le disais, c'est dur de poser un diagnostic et du coup, ça n'a pas été identifié, parce que tu parlais aussi de frustration quand tu as découvert ce que ça pouvait être et puis où ça avait pris racine, etc. Qu'est-ce qui fait que parfois, pour certaines femmes comme pour toi, ça peut prendre autant de temps, parce que finalement, il y a une errance comme ça qui est douloureuse.
Il y a plusieurs biais. Déjà, la santé mentale en France a mauvaise presse. Donc, c'est pas quelque chose avec lequel on est souvent familier, c'est quelque chose qui fait peur. Et d'associer santé mentale et maternité, qui, elle, la maternité est mise sur un piédestal, c'est joli, c'est rose, c'est des paillettes, etc. Ça va pas de pair. Donc, on a du mal déjà à associer les deux, à se dire que c'est possible, en fait. Déjà, de façon générale, dans la population, de façon générale, la dépression postnatale est très peu connue, quand même. Il y a une nécessité d'aller démocratiser ce terme et d'aller permettre aux gens d'avoir une meilleure connaissance de ce que c'est et de pouvoir, du coup, peut-être mieux observer certains signes. Parce que quand même, le propre quand même de la femme en dépression postnatale, c'est justement la parole qui est bloquée. Très souvent, parce que c'est pas ce qu'on attend d'une jeune mère. On attend d'une jeune mère qu'elle soit heureuse. On n'attend pas qu'elle soit déprimée. Et puis, il y a la honte, du coup, qui est liée à ça. Justement, c'est loin de l'idéal sociétal, maternel, mis justement sur un piédestal. Donc, on a honte. On a honte aussi de ce qu'on ressent à l'intérieur. On a honte de certaines pensées qu'on peut avoir. Il y a aussi la peur qu'on s'imagine qu'on va faire du mal à son bébé. Si on en parle, l'autre peut se dire « Oh, elle va faire du mal à son bébé » ou « Elle n'aime pas son bébé ». Et souvent, les femmes, ce qu'elles verbalisent, c'est la peur que le bébé soit placé, en tout cas qu'il y ait quelque chose aussi de cet ordre-là. Donc, c'est aussi pour ces raisons-là que la parole se bloque. Ensuite, il y a quand même un souci aussi de formation des professionnels, c'est-à-dire que les professionnels du champ périnatal, qui sont quand même assez nombreux, parce que notamment je pense aux pédiatres, je pense aussi à l'ostéopathe, le kiné, etc., ne sont pas toujours sensibilisés, au-delà d'être formés, mais même juste sensibilisés sur le sujet. Et en fait, voguent avec des a priori, en fait, sans avoir de connaissances solides et réalistes, surtout de ce qu'est vraiment la dépression postnatale. Et puis, il y a aussi une crainte, pareil. C'est pareil, est-ce qu'il est raisonnable d'aller demander à un professionnel de poser certaines questions s'il n'a pas de ressources derrière à donner? Enfin, c'est pareil, c'est tout l'enjeu d'aller développer son réseau, d'avoir des ressources, d'avoir des personnes vers qui, des personnes, des associations, des structures, peu importe, vers qui orienter cette femme. Parce que c'est bien beau d'aller identifier quelque chose, mais qu'est-ce que j'en fais derrière? Donc il y a un manquement à la fois et de connaissances sur le sujet pour pouvoir identifier, mais aussi qu'est-ce que je fais de ces femmes-là derrière, en fait. Donc parfois, y a peut-être certaines questions qui ne sont pas posées ou certaines choses observées qui ne sont pas mentionnées ou certaines questions de la mère qui peuvent être balayées parce que on n'a pas forcément les ressources pour faire quoi que ce soit derrière. Après, ça peut être aussi un sujet qui dérange. Encore une fois, la santé mentale en France... peut être un sujet délicat, on n'est pas tous à l'aise avec ça, avec les troubles de santé mentale. On ne sait pas tous quoi faire de ça, quoi dire. Et donc, parfois, on élude un petit peu ce sujet-là. Voilà. Et moi, dans mon cas, quand ma fille a eu 3 mois, moi, je travaillais en néonat à l'époque quand ma fille est née. J'étais infirmière de néonat. Et quand j'ai voulu reprendre le travail, j'ai pas pu et j'ai vu du coup la psychologue de la maternité. Et on a beaucoup parlé du travail. Moi, j'étais persuadée que mon travail ne me convenait plus. Et du coup, c'est pour ça que je n'allais pas bien. Et en fait, j'ai eu des idées suicidaires. Et je lui en ai parlé. Je lui ai demandé, vous ne pensez pas quand même que je fais une dépression? Parce que l'autre jour, j'ai eu envie de me tuer. Enfin, c'est quand même... Je ne me sens pas bien, quoi. Ce n'est pas cool. Et elle m'a dit, non, si vous faisiez une dépression, vous seriez au fond de votre lit et pas devant moi. Et du coup, moi, je me suis dit, ah, ok, donc, du coup, c'est pas ça. Donc, du coup, je me suis dit, ok, Chloé, t'es juste nulle, pas faite pour être mère, donc, tu vas essayer de te débrouiller comme tu peux, et puis voilà. Et puis, elle m'a orientée vers un collègue pour faire une thérapie, parce que je pense qu'elle a quand même identifié que j'avais beaucoup de squelettes dans mes placards et que j'avais besoin d'une thérapie. Sauf que la personne vers qui elle m'a orientée, c'était un psychanalyste qui n'était pas du tout adapté, c'est-à-dire que je comprenais rien à ce qu'il me disait. C'était pas un accompagnement qui était adapté, donc j'ai lâché l'affaire parce que je ne m'y retrouvais pas, en fait. Il faut savoir quand même que la dépression postnatale, cognitivement, on n'est plus vraiment là. C'est-à-dire que il y a des difficultés de concentration, il y a des difficultés des fois à élaborer certaines choses, des troubles de la mémoire, etc. Déjà dans le postpartum, il y a des troubles de la mémoire. Et donc, c'est extrêmement chronophage de faire des démarches pour demander de l'aide. Déjà, demander de l'aide, ça, c'est quand même compliqué. Il faut baisser la garde, quand même. Et puis, c'est extrêmement chronophage de trouver qui, quoi, comment, enfin voilà, quelle personne peut m'aider, etc. Et surtout, quand on ne sait pas vraiment m'aider par rapport à quoi. Enfin, du coup, c'était tellement flou que moi, j'avais pas du tout. Enfin, là, j'en parle avec 5 ans, presque 6 ans de recul. C'est facile. Là, j'ai une clairvoyance complète sur tout ça. Mais en plein dedans, moi, je me disais juste, c'est bof, quoi. Enfin, ça va pas, quoi. Et je ne savais pas quoi, de comment, de pourquoi. Donc, j'ai lâché. Enfin, voilà, j'étais un peu découragée et j'ai fait des choses par moi-même, en fait. J'ai coupé les ponts avec ma mère quand ma fille avait 18 mois. Voilà, enfin, j'ai identifié qu'il y avait certains nœuds. Donc, j'ai agi sur ces nœuds-là, disons-moi, toute seule. Et le temps aussi fait que la dépression postnatale, elle finit par passer à un moment donné, même si on n'y fait rien, on se sent quand même un peu mieux. Alors parfois, elle peut glisser vers autre chose. Elle peut glisser vers une dépression caractérisée, elle peut glisser vers un burn-out. Mais on sort quand même de cette dépression postpartum, parce que du coup, quand on sort du postpartum, du coup, les problématiques sont différentes. Mais voilà, moi, je suis pas tombée sur les bonnes personnes. Je suis peut-être... Avec du recul, des fois, je me dis, est-ce que j'ai assez dit? Est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que j'ai encore parfois cette culpabilité où je me dis, mais est-ce que t'as vraiment, dit ce que tu ressentais? Est-ce qu'on a compris ce que t'avais, vraiment ce qui se passait en toi? En même temps, je me dis, moi aujourd'hui, je suis formée, une femme qui a un bébé de 3 mois qui me dit, j'ai des idées suicidaires. Moi, j'ai un warning qui s'allume et tout de suite, j'ai un plan d'action. C'est une femme qu'il faut tout de suite orienter vers des urgences, notamment. C'est une urgence psychiatrique, en fait. À partir du moment où on a des idées suicidaires, il y a quelque chose à faire d'assez d'urgent, quoi. J'ai pas d'autres mots. En tout cas, il y a une prise en charge adéquate et rapide qui doit se mettre en place et une prise en charge contenante et vraiment aidante, quoi, avec des professionnels formés et aguerris, quoi. Donc,
Oui, non, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je me posais la question de s'il y avait une distinction justement dans la prise en charge entre la dépression et la dépression postpartum. J'entends si elle arrive au même moment. C'est-à-dire que là, de ce que je comprends, c'est que cette dépression postnatale, elle est vraiment en lien avec le fait de devenir mère et tout ce que ça vient réveiller, évoquer, mettre en phase dans le quotidien. Mais peut-être que d'un point de vue timing, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi d'autres événements qui arrivent dans la vie de cette mère, mais pas en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'individu, et qui peut créer une situation de dépression. Ça arrive, voilà, c'est corrélé, mais il n'y a pas forcément de corrélé. Déjà, ça, c'est possible. Et ensuite, est-ce que la prise en charge vient être différente?
Oui, ça, c'est possible. Après, la prise en charge, non, elle n'est pas... Alors, elle peut être différente dans le sens où une dépression postpartum, comme elle vient questionner quand même le rapport à la maternité, c'est en fait devenir mère réveille des choses, met en lumière certaines choses, ouvre la boîte de Pandore ou voilà, fait des compensés sur certains points. En tout cas, on va forcément travailler sur justement la maternité, le rôle de mère, le lien mère-enfant, voilà, tout ce que ça implique, l'identité qui va bouger, voilà, le rapport à la famille, etc. Enfin, donc, quand vraiment il y a une dépression postpartum, c'est quand même en plus que la personne soit formée spécifiquement aux difficultés liées à la périnatalité, qui est une période vraiment particulière de vie. C'est comme l'adolescence, en fait. C'est des périodes qui sont singulières et charnières dans une vie et qui mobilisent en fait des mécanismes assez particuliers, en tout cas psychiquement. Il y a vraiment des choses assez spécifiques qui se rejouent dans ces périodes-là, et de connaître ça, en fait, ça permet de mieux comprendre et de pouvoir accompagner des fois plus finement dans cette période-là, les femmes, en fait. Après, fondamentalement, quand on traverse une difficulté psychique, pouvoir en parler, avoir un espace de parole et d'écoute, c'est ce qui est fondamental, en fait. C'est ce qui va vraiment permettre de pouvoir élaborer, de pouvoir mettre en lumière certains mécanismes, de pouvoir déjouer certains mécanismes, de pouvoir travailler sur des traumas, notamment. Je pense qu'il y a une prise en charge très souvent, pas souvent, quand même assez importante, je trouve, dans la périnatalité, en psychotrauma, je trouve assez globalement un passage un peu obligé, en tout cas sur ce plan-là, parce que ça réveille quand même beaucoup de choses de cet ordre-là. Et puis voilà, après, c'est... ça dépend. Après, des fois, on peut avoir aussi besoin d'un traitement. Tout va dépendre aussi de ce que ça va mobiliser. On sait notamment que la période périnatale génère énormément d'anxiété, déjà de base. Et donc, la dépression postnatale par-dessus, c'est une sur-anxiété. Enfin, c'est une anxiété qui est majorée. Et du coup, peut-être que l'anxiété est plus importante que simplement, enfin, que dans une dépression caractérisée. Il y a aussi une anxiété, mais qui sera peut-être moins importante du fait que ce n'est pas dans une période fondamentalement de vulnérabilité. En fait, la dépression postpartum, c'est une galère dans la galère. Le postpartum, c'est déjà un sujet. C'est déjà une période de grand bouleversement, de remaniement psychique. On marche sur des plaques tectoniques. C'est la première année, en tout cas, de vie d'un enfant. C'est des réussites, des échecs. On teste des choses chaque jour. On s'adapte presque à chaque instant. Donc, c'est extrêmement insécurisant. Et c'est extrêmement... challengeant, c'est-à-dire que c'est des pertes de repères presque quotidiennes qu'il faut, se réinventer. Et en plus, on se rencontre aussi, dans les victoires, dans les échecs, dans nos capacités, mais on se rencontre aussi à travers son enfant. Enfin, ça mobilise en fait énormément de choses. Ça questionne le couple, ça questionne nos relations aux autres, ça questionne notre relation au monde. Combien de femmes disent, mais bon, en fait, mon travail n'a plus de sens, bien évidemment, parce que la maternité, c'est tellement puissant. Parfois, on peut avoir l'impression que plus rien, en fait, à côté, n'a de saveur, n'a de goût, tellement ça a été un tsunami. On peut vivre, d'ailleurs, ce qu'on appelle une matrescence extrêmement puissante, qui n'est pas de la dépression postpartum, mais qui est tellement puissante que c'est un tsunami qui vient tout ravager sur son passage et qui remet tout un peu en mouvement et en perspective. Souvent les femmes disent je ne suis plus la même. Fondamentalement non, on n'est plus la même, parce que même dans le cerveau on a des remaniements qui se font. On a par exemple on sait que l'hippocampe va rétrécir, c'est l'organe de la mémoire dans le cerveau, pour vulgariser, il rétrécit de 5% dans la période périnatale et ne va reprendre sa taille qu'au bout de 2 ans. Donc il y a vraiment même neurologiquement du coup des modifications qui se voit en fait sur les imageries. Donc c'est pas juste en fait le problème, c'est qu'on vit dans une société qui est, en tout cas, qui fige les choses sur ce plan là on te dit aie un enfant, parce que déjà il faut que t'aies un enfant, sinon t'es pas une vraie femme. Si t'as pas eu un enfant, en fait, il sert à rien, parce qu'à la base t'es là pour ça. Donc, déjà, enfin voilà, pression, on vend ça comme une fin en soi. Combien de mères en fait voilà, se disent c'est un peu l'objectif de ma vie, et puis finalement se rendent compte qu'en fait c'est pas si, alors elles aiment leur enfant, elles sont épanouies, mais voilà, c'est pas une fin en soi, justement, ça ne suffit pas. Et fort heureusement, en fait. Fort heureusement qu'on a bien d'autres aspects dans notre vie qui peuvent nous apporter et nous épanouir. Sinon, ça serait aussi beaucoup de pression à mettre sur les épaules de nos petits-enfants. mais voilà, j'ai perdu le fil, je ne sais plus où j'allais, mais en tout cas, c'est déjà une période où c'est extrêmement compliqué de vivre tout ça en un temps record. Ce que je voulais dire, c'était ça, c'était on nous demande en fait de revenir en ayant eu un enfant comme si on n'en avait pas, comme si rien n'avait changé, comme si on était resté la même, qu'il y avait juste eu une pause dans le temps. Mais en fait, cette pause dans le temps, parfois, c'est un monde qui passe dans... Qui va à l'envers, en fait. C'est-à-dire, c'est un monde qui peut faire un 360 tellement, en fait, on a vécu un chamboulement énorme. Et donc, on ne peut pas nous demander de revenir à la même place et être la même, alors que parfois, on n'est plus du tout. Et puis, c'est pas forcément négatif, parce que souvent, on dit, oh, t'as changé. On me disait tout le temps, oh, Chloé, t'as changé. Et en fait, je percevais ça comme quelque chose d'extrêmement négatif, quoi. Alors qu'en fait... Alors, et moi, je le percevais comme ça aussi, parce que je me disais, mais c'est vrai, je me reconnais plus, je comprends pas, pourquoi est-ce que maintenant je suis comme ça, etc. Et en fait, alors moi, c'était différent, parce que c'était dans le cadre, dans la dépression postpartum, donc ça a été vraiment empreinte d'une grande souffrance. Mais finalement, c'est ce qui m'a aussi permis de me rencontrer. En fait, c'était plutôt avant que j'étais pas vraiment moi-même, parce que j'avais beaucoup de barrières, j'avais beaucoup de non-dits même en moi-même. J'avais pas accès à plein de parties de moi, j'avais pas accès à plein d'informations auxquelles j'ai eu accès après. Alors ça a été extrêmement terrible, clairement, mais ça m'a permis de me reposséder et de savoir vraiment finalement qui j'étais, ce que je voulais, d'asseoir beaucoup plus mes opinions, voilà, donc en tout cas d'avoir et en même temps de m'ouvrir aussi. Je trouve que je suis beaucoup plus ouverte depuis que je suis devenue maman. Voilà, en tout cas, ça peut avoir vraiment un véritable intérêt. En tout cas, on peut vraiment se rencontrer et s'apaiser, être plus apaisé aussi avec soi-même après. Mais ça se fait... Moi, je dis souvent, c'est comme une épilation, hein, c'est-à-dire que sur le coup, c'est pas agréable, ça fait mal, mais après, on est content.
Chloé, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose que tu nous as dit au début de notre échange, comme quoi c'était polymorphe, ce trouble était polymorphe, donc il peut être plus ou moins discret comme tu le disais, ou alors effectivement très criant, très prononcé. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelques signes qui parleraient éventuellement aux personnes qui nous écoutent, ou même par rapport aux entourages de chacun, qui doivent faire réagir? On ne peut pas juste mettre sous le tapis en se disant « c'est bon, ça ira mieux demain », puis chaque jour on se dit que ça ira mieux demain. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui doivent alerter, déjà la personne en elle-même, mais aussi l'entourage, parce que comme tu le disais, on n'a plus tout à fait la possibilité de réfléchir, de s'organiser, de prendre le temps sur soi-même dans cette période-là, du postpartum. Et donc il faut parfois que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse aussi alerter. Donc, comment repérer? Et puis après, comment transmettre? Parce que tu le disais tout à l'heure, est-ce que j'ai bien dit, etc. Alors, moi, comme ça, de l'extérieur, j'aurais tendance à dire, c'est plutôt aux professionnels autour d'être vraiment à l'écoute et de vouloir comprendre. Mais effectivement, on peut se dire, comment je partage telle ou telle chose qui m'arrive? Donc, voilà, les signaux d'alerte. Et puis après, comment on vient partager ça avec les personnes qui, de près ou de loin, peuvent nous aider?
Ok. Au niveau des manifestations, il y en a notamment, alors, deux principales, parce que c'est le propre, justement, de toute dépression. Donc, ça va être une grande tristesse. On parle de plusieurs crises de pleurs par jour pendant plusieurs jours, plus de 15 jours, notamment. C'est-à-dire qu'on peut pleurer, je sais pas, 3, 4, 5 fois par jour pendant plusieurs heures. Et ça, vraiment, sur une durée prolongée, c'est quelque chose de vraiment répété. Avec une grande tristesse, mais qui est vraiment... une grande souffrance, quoi, qui est vraiment présente tout le temps et très, très, très pesante. Et une perte de plaisir. Pas forcément.
On ne sait pas forcément pourquoi on est triste. Non, ça qui peut aussi.
Moi, par exemple, je ne comprenais pas. J'étais très triste, mais vraiment, enfin, une tristesse, mais un truc qui venait, du coup, enfin, un truc très archaïque. Et j'ai compris après pourquoi. Moi, j'ai eu des violences bébé Et en fait, je revivais toutes les violences que j'ai eues bébé à travers mon bébé. Quand mon bébé pleurait, par exemple, c'était comme si c'était moi qui pleurais. Et enfin, voilà, ça me faisait, en fait, ça faisait des espèces de magma dans ma tête. Voilà. Et donc, une grande, un truc vraiment viscéral, quoi. Souvent, ce que les femmes décrivent, c'est ça, c'est une envie. Enfin, c'est impérieux, en fait. Il y a vraiment un truc, faut pas s'en empêcher, qu'on ressent cette tristesse qui est écrasante. Et c'est très compliqué, justement, quand on est dedans. De prendre le recul, de faire le pas de recul et se dire qu'est-ce qui se passe. Donc on ne comprend pas, donc on met ça des fois sur le dos de « Ah bah oui, je sais pas, son body est rose alors que je voulais un body bleu. » Du coup, ça vient se matérialiser. Voilà, sur où je suis fatiguée, ça vient se matérialiser sur des petites choses. Alors qu'en fait, la vraie raison, en tout cas les vraies raisons, sont complètement autres. Donc, il y a ensuite la perte de plaisir. C'est caractéristique, en tout cas, de toute dépression. La dépression, quelle qu'elle soit, mais je vais parler de la dépression postpartum, c'est une tache d'encre. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient toucher toutes les sphères de la vie. C'est pas comme, par exemple, le burn-out, où quand on extrait la personne de la sphère qui pose problème, donc que ce soit la sphère parentale, professionnelle, familiale, etc., elle se sent bien. Quelqu'un en burn-out professionnel, en burn-out de travail, ça se passe bien. C'est quelqu'un qui va pouvoir, travailler après sur soi, et qu'autant qu'il n'est pas dans le milieu professionnel, ça va. La dépression postpartum, la femme ne va bien jamais. C'est très mal dit, ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. C'est vraiment, elle va travailler, ça va pas, elle est avec sa famille, ça va pas, elle est avec son bébé, ça va pas. Enfin, voilà, c'est vraiment permanent.
C'est-à-dire que quelqu'un prend le relais avec bébé pendant une ou deux journées, elle va pas mieux, en fait.
Juste là. En tout cas, il y a des... Alors, ça peut être majoré, bien évidemment, par le manque de sommeil, par la responsabilité aussi, par tout ça. Donc, il y a peut-être des choses qui vont s'apaiser. Elle va être un peu plus reposée. On sait que quand on est fatigué, on a moins de défense. Hein, du coup, on prend plus à cœur. Les émotions sont submergées. Enfin, voilà, ça vient jouer aussi, bien évidemment, sur notre comportement. Mais ça ne va pas faire taire la douleur. C'est-à-dire qu'on va peut-être être plus reposé, être un peu plus apaisé sur ça, physiquement peut-être, mais psychiquement, il y a vraiment on parle de fatigue émotionnelle, en fait, il y a vraiment quelque chose qui persiste. Ça, c'est pareil, c'est assez significatif. Une femme qui va avoir l'occasion de pouvoir, par exemple, se reposer 2-3 jours, et qui va dire, en fait, je suis épuisée. En fait, c'est une fatigue, vraiment une fatigue psychique, c'est un épuisement, en fait. C'est pas juste, il suffit pas de dormir 3 nuits pour se sentir mieux, ça n'a rien à voir, en fait. Parce que c'est aussi toute l'anxiété, toutes les pensées parasites, en fait, qui sont, et toutes les actions qu'on met en place, du coup, pour aller contrer ça, en fait, qui prennent une énergie incroyable, en fait. Donc, c'est une fatigue qui est autre que de la fatigue physique. Du coup, j'en viens à ça, en fait, c'est très souvent un épuisement avec des troubles du sommeil. Alors, souvent, les troubles du sommeil sont liés à ce qu'on appelle une hypervigilance, ou de l'anxiété, l'hypervigilance, c'est de l'anxiété. L'hypervigilance, en fait, elle est physiologique au moment de la naissance de l'enfant parce qu'elle est nécessaire. C'est-à-dire que quand le bébé, petit bébé, être humain, arrive sur Terre, il ne peut pas survivre tout seul. Il faut que ses parents, en fait, prennent soin de lui pour qu'il puisse survivre. Et donc, pour ça, il y a un mécanisme qui a aussi été... théorisé par Winnicott notamment, qui s'appelle la préoccupation maternelle primaire. C'est vraiment cet état, en fait, d'hypersensibilité, d'hypervigilance dans laquelle la mère est plongée pour pouvoir, en fait, en gros, hypercapter son bébé. En gros, c'est l'espèce de super pouvoir qu'elle va développer pour pouvoir anticiper presque les besoins de son bébé pour que celui-ci puisse survivre au mieux. Donc, la nature est bien faite, en tout cas, l'être humain est bien fait, on est programmé pour ça. Alors, parfois, ça a des difficultés à s'activer, pour certaines raisons. Mais en tout cas, à la base, on est programmé pour ça. Mais du coup, cet état crée une hypervigilance, qui du coup est physiologique au début, qui est nécessaire du coup à la survie du bébé, mais qui est censée s'estomper. Au fur et à mesure que voilà, qu'on prend confiance aussi dans son rôle, etc., c'est des choses qui s'apaisent. Dans la dépression postnatale, on observe que l'hypervigilance, elle est extrêmement marquée, voire elle s'aggrave, si je puis dire. C'est-à-dire que, par exemple, la question qu'on peut poser à une mère, c'est... On ne pose pas à une mère, évidemment, est-ce que vous dormez? Parce qu'elle va dire non, avec jeune maman. Mais par contre, on peut lui demander, est-ce que vous dormez quand votre bébé dort? Et si elle répond non, c'est là qu'on peut venir questionner pourquoi. qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui vous empêche de dormir. Ça, c'est un signe généralement assez évocateur, parce que jeunes parents, on est plus en manque de sommeil, donc généralement, dès qu'on a l'occasion, on dort. En tout cas, voilà, notre système, en tout cas, c'est ce qu'il attend. Mais par contre, si notre système est tellement en vigilance qu'il ne peut pas s'apaiser, en tout cas, et dormir, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc j'ai parlé de l'anxiété, je vais me permettre de faire le lien avec notamment les phobies d'impulsion, qui font partie des troubles anxieux. C'est un TOC, en fait, c'est-à-dire que c'est quand notre anxiété est très forte, en gros, il va falloir qu'elle trouve une voie d'expression. Il va falloir que le seau puisse se vider un petit peu, sinon ça explose, en fait. Et donc, l'anxiété peut trouver ce moyen-là. C'est-à-dire qu'on va se voir, par exemple, on passe devant l'escalier, on va se voir faire tomber le bébé dans l'escalier. On donne le bain au bébé, on va se voir soit le faire glisser dans la baignoire, soit le noyer, etc., etc. On va se voir comme ça, dans des... comme si on avait une télé devant soi et qu'on voyait quelques milliers de secondes, en fait, une scène où on se voit soit faire du mal à son bébé ou soit qu'il arrive quelque chose à son bébé. Faut savoir qu'une jeune mère est tellement préoccupée, justement, préoccupation maternelle primée, par son bébé, tellement préoccupée aussi par cette responsabilité qu'elle a, justement, de ce bébé, bah, qu'elle veut que rien lui arrive et qu'en fait, elle va développer, en fait, de l'anxiété par rapport à ça, et cette anxiété, bah, du coup, va se sentir par ce biais-là. Et du coup, c'est une manifestation de peur. Donc, il n'y a rien d'intentionnel. On n'est pas dans un délire. On n'est pas dans quelque chose de « je veux faire du mal à mon bébé ». Justement, c'est l'inverse. Je veux que jamais rien, qu'il lui arrive jamais rien parce que je l'aime trop et que c'est mon bébé. Quoi. Je veux le protéger à fond. Mais du coup, j'ai tellement peur de ne pas le protéger assez, de ne pas être à la hauteur, de pas être une assez bonne mère pour lui. Qu'en fait, bah, du coup, j'ai plein d'anxiété par rapport à ça et ça se manifeste comme ça. Le problème de ça, c'est que ça crée énormément de culpabilité parce qu'on comprend pas. On se dit, mais attends, moi je l'aime, enfin, moi je veux pas faire ça, j'aime trop, enfin, je comprends pas, c'est horrible. Et ça crée des situations d'évitement, des conduites d'évitement. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, justement, l'exemple du bain, si à chaque fois qu'on donne le bain, on a ces visions-là, bah, en fait, on va plus donner le bain. Parce qu'on se dit, mais attends, moi, à chaque fois que je donne le bain, je vois ça, c'est horrible. Enfin, je peux plus donner le bain. Et le problème, c'est que quand on a des phobies d'impulsion sur beaucoup de choses et beaucoup de fois dans la journée, ben ça peut créer un figement, en fait. Ça peut créer quelque chose de... on n'arrive plus à fonctionner normalement. Et c'est là que ça peut devenir aussi problématique. Donc, c'est l'anxiété, vraiment, qui prend, en tout cas, ce pendant-là. Et il y a beaucoup de phobies d'impulsion dans la période périnatale, mais même en dehors de la dépression postpartum, hein, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Mais les femmes n'en parlent pas, parce qu'elles ont extrêmement peur, justement, qu'on se dise oh, « mais tu veux faire du mal à ton bébé, t'es une horrible mère !» Parce qu'elles se considèrent, de toute façon, toute jeune mère se considère comme une horrible mère à un moment donné. On est très, 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 très sévère dans notre jugement envers nous-mêmes, on est notre propre ennemi à ce moment-là. Parce qu'on est tellement vulnérable, en fait, on a besoin d'être rassuré et d'avoir des validations aussi du fait que cette tâche si énorme qui nous est confiée, qu'on va vraiment réussir à la mener à bien et qu'on est la personne de la situation. Voilà. Mais ça, on va avoir besoin qu'on nous le prouve et voilà, d'être validé aussi par rapport à ça. Ensuite, il va y avoir des troubles de l'appétit aussi, la dépression postpartum, mais aussi dans toute dépression. Une grande irritabilité, beaucoup de colère, énormément de colère, avec voilà parfois des comportements qui peuvent être agressifs. Ça peut avoir des conséquences assez, si je puis dire, dramatiques parfois sur le couple notamment, parce que c'est très souvent comme on ne s'autorise pas ressentir, exprimer de la colère parfois face à son bébé, devant son bébé. Ben, faut bien que quelqu'un d'autre prenne. Donc, ce quelqu'un d'autre, très souvent, c'est le conjoint. Et puis, surtout, le conjoint qui, lui, va reprendre le travail plus tôt et qui peut être vu comme quelqu'un qui abandonne. En tout cas, voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se jouer. Et du coup, ça peut créer de gros conflits au niveau du couple, mais aussi au niveau de la famille, au sens large. Après, il va y avoir, comme j'ai dit, des troubles cognitifs, des troubles de la concentration, une grande culpabilité. voilà. Après, il y a un risque suicidaire avec des idées suicidaires. Alors, il n'y a pas, très peu en tout cas, de scénarios d'élaboration, de comment, etc. C'est plus, j'en peux plus. Je veux que ça s'arrête. Des fois, les femmes disent, moi, je rêverais d'avoir un accident pour être hospitalisée, pour pouvoir dormir, pour pouvoir, en fait, me mettre en off. Mais juste en pause, parce que j'aime mes enfants et que je ne veux pas mourir. Mais en fait, je voudrais juste que ça s'arrête. Et on est tellement désespérés parfois qu'on ne sait pas. Parce... Oui, vouloir échapper, mais surtout vouloir que la souffrance s'arrête, en fait. Que le mal qui nous ronge, on a vraiment l'impression d'être rongé de l'intérieur par un truc qu'on ne maîtrise pas. On a l'impression... comme si on était dirigé par un monstre et de devenir en fait ce monstre. Parce qu'on se voit agir, on se voit avoir des excès de colère, on se voit pleurer toutes les larmes de son corps juste parce que on a oublié, je sais pas, juste parce que on trouve pas ses clés, ou juste parce que pour des situations, des choses qui sont... On n'arrive plus du tout à gérer en fait des petits tracas ou des problématiques qui habituellement se gèrent assez facilement au quotidien parce qu'on arrive à prendre du recul, parce qu'on arrive à se réguler émotionnellement tout seul, parce que voilà, il suffit de respirer 2 minutes et ça passe. Là, on est en hyperactivation tout le temps en fait, on est sorti de sa zone, de sa fenêtre de tolérance tout le temps.
C'est aussi un point d'alerte, le fait qu'on se rende compte qu'il y a vraiment quelque chose de disproportionné entre les choses qui se passent de façon objective et ce qu'on ressent. Quand il y a un tsunami pour quelque chose qui est minuscule et qu'on ne voulait pas réagir avant, cette disproportion peut nous faire dire non, là vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui. Alors, soi-même, parfois, ça peut être difficile, mais l'entourage, en tout cas, ça peut être un point d'alerte. Et surtout, comment dire, parfois, on va dire oh, elle est chiante depuis qu'elle est devenue mère. Elle n'est pas chiante, en fait. Elle ne va pas bien. C'est pas pareil. Et donc là, on peut, à partir du moment où il y a quelque chose qui interpelle, on se dit, quand même, ce comportement répété, répétitif, on sent qu'elle s'enlise, que la personne s'enlise, en fait, dans ce comportement. On sent qu'il y a une anxiété qui est majeure, avec des préoccupations souvent très centrées sur le bébé, ou ça peut être centré sur soi aussi, en termes de maladie, par exemple. Mais par exemple, une femme qui consulte, je sais pas, 2-3 fois par semaine, le pédiatre, ça doit poser question. Ça doit alerter. C'est des comportements qui doivent alerter. Ou quelqu'un qui est en boucle sur un sujet, notamment le sommeil. Sommeil de bébé. Quelqu'un qui est en boucle, en boucle, en boucle, en boucle sur un sujet qui va cristalliser sur quelque chose en particulier, mais avoir des propos vraiment en boucle, ça, c'est synonyme aussi d'une anxiété. Alors, il y a peut-être également, en effet, une problématique, qu'elle soit physique, par rapport au bébé, peu importe. Mais ça doit aussi, le comportement de la mère, en tout cas, par rapport à ça, doit alerter sur son état psychique à elle, sur comment elle se sent par rapport à ça et comment elle gère justement ça.
Alors, justement, par rapport à tous ces signaux, qu'est-ce que la mère ou qu'est-ce que l'entourage peut faire ? Vers qui on se tourne ? Et puis, j'imagine que même si du premier coup, ça c'est pas vraiment l'idéal, comme ce que toi, tu as pu vivre, il ne faut pas baisser les bras, il faut se tourner vers encore d'autres personnes jusqu'à trouver le soutien dont on a besoin. Mais quelle serait la première démarche, finalement ?
La première démarche, c'est d'en parler à un professionnel de santé que l'on côtoie déjà, peut-être. Ça peut être sa sage-femme, son médecin, l'ostéopathe en qui on a confiance, peu importe. Vraiment quelqu'un justement en qui on a confiance, avec qui il y a déjà une alliance thérapeutique. Quelqu'un, on sait que par exemple, si on lui parle de telle chose, il va pas dire soit occulter, soit dire c'est rien, ou soit juger. Voilà, il faut qu'on se sente...
Le fameux ça va passer, ça ira mieux, ne vous inquiétez pas. C'est parce que vous êtes petit.
Voilà, donc c'est vraiment déjà... Finalement, peu importe le professionnel, mais quelqu'un en qui on a confiance et quelqu'un dont on sait qu'il va se saisir de l'information. Il va en faire quelque chose. Il ne va pas balayer ça. Donc, ça peut être un professionnel. On appelle ça des professionnels de première ligne, en fait. Ceux qu'on rencontre, la sage-femme, on la côtoie énormément dans la période du postpartum. Son médecin aussi, éventuellement. Je disais, ça peut être l'ostéopathe, le kiné, enfin, peu importe. Et ensuite, soit ce professionnel-là va orienter une femme vers une prise en charge adaptée. Donc, c'est souvent un professionnel du champ psychique, hein, c'est-à-dire que ça peut être un psychiatre, un psychologue, voilà, un professionnel qui est formé en tout cas à toutes ces problématiques-là. Ça peut être un sophrologue, un psychopraticien, enfin peu importe, en tout cas quelqu'un qui va pouvoir aider la mère sur ce plan-là, sur le plan psychique, et qui va pouvoir en tout cas l'accompagner par rapport à ce qu'elle vit. Parfois, il peut y avoir besoin d'un traitement. Donc là, il va y avoir soit, alors ça peut être le médecin, du coup, traitant, qui va prendre le lead sur ça avec un accompagnement en parallèle vraiment de parole et d'écoute. Soit, c'est la même personne, notamment parfois le psychiatre. Il y a des psychiatres qui sont des médecins, hein, qui peuvent prescrire, et à la fois, ils sont vraiment thérapeutes aussi. À côté, où ils peuvent vraiment avoir cet accompagnement de parole et d'écoute, quel qu'il soit, en fonction du champ, enfin du courant duquel ils sont, de la thérapie qu'ils utilisent, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le traitement de première attention, c'est vraiment la parole et l'écoute. C'est pas du tout le traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux, il doit vraiment être une béquille. Il permet très souvent d'apaiser le système. En fait, il permet d'éviter le parasitage de pensée, il permet de pouvoir justement élaborer en thérapie, de prendre du recul, etc. D'apaiser aussi s'il y a des idées suicidaires, ça permet vraiment de pouvoir, limiter tout ça et que la personne puisse du coup avancer. Mais c'est vraiment une béquille en complément d'un accompagnement psychique avec quelqu'un. Ensuite, il y a des associations vers qui on peut se tourner. Je pense notamment à Madame Blose, du coup, qui est une association nationale pour la difficulté maternelle. Donc, c'est un showroom, il y a des groupes de parole locaux, et puis surtout, on est des bénévoles avec expérience vécue, c'est-à-dire qu'on est passé par là, on sait de quoi ils retournent, et on peut surtout orienter les femmes. On a un annuaire national de professionnels formés, et donc on peut, en fonction de la localité de la personne, la diriger vers un professionnel près de chez elle qui va être adapté. On aura eu un échange avec elle et puis qui va pouvoir du coup l'aider. Il y a aussi ce qu'on appelle de la psychiatrie périnatale avec des unités, donc ça peut être soit des consultations. Moi, par exemple, je suis dans le 77, on n'a que des consultations du coup mère-enfant. Il peut y avoir aussi de l'ambulatoire, c'est-à-dire que c'est une équipe mobile qui vient à domicile, donc de psychiatrie périnatale. Il y a aussi ce qu'on appelle des hospitalisations de jour. Donc, ça peut être 2-3 jours par semaine ou des fois tous les jours de la semaine. Donc, c'est simplement la journée. Et il y a des hospitalisations plénières, donc dans des unités conjointes mère-enfant, où vraiment, c'est une équipe pluridisciplinaire qui est formée à la fois sur des problématiques liées à la mère et puis aussi liées au bébé, où vraiment on va prendre et soin de la mère et soin du bébé individuellement, mais aussi prendre soin du lien, en tout cas de permettre des conditions favorables, un environnement favorable pour que ce lien en tout cas puisse se tisser et que les deux puissent créer une harmonie entre eux et que la mère puisse vraiment être dans des meilleures conditions pour prendre soin aussi de son bébé. Voilà. Ensuite, il y a des associations. Je pense notamment à Maman Blues, qui est une association nationale pour la difficulté maternelle avec un forum, des groupes de parole locaux. Il va y avoir aussi, en fait, il y a des référentes locales. On a une 60aine de référentes. On est des femmes avec expérience vécue de la dépression postnatale. Et en fait, notre rôle, c'est vraiment d'accueillir déjà ce que les femmes pouvoir dire, de pouvoir rassurer, mais surtout d'orienter. On a un répertoire de professionnels qui sont formés. Et donc, on donne des coordonnées en fait, aux femmes. Donc, en fonction de leur localisation géographique, on leur donne des professionnels qui sont le plus proches de chez elles et puis pour qu'elles puissent en fait, les contacter directement. Ça leur évite, en fait, on cherche pour elles, en gros, ça leur évite d'avoir à faire justement cette démarche qui est extrêmement chronophage et énergivore. C'est pas vers qui se tourner, en fait. Et donc, nous, on est vraiment, on a répertorié tout ça, et toutes ces coordonnées-là, et du coup, on peut du coup les donner à ces femmes-là. Ce qui va être important aussi, ça va être de pallier à toute la charge quotidienne, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'isolement, le manque de soutien, en tout cas le fait que les femmes aient une charge mentale qui soit importante et qu'elles soient harassées de tâches, en tout cas qu'elles s'imposent aussi des tâches dans une société qui ne supporte pas la non-productivité. Du coup, ça peut créer un épuisement, et on sait que cet épuisement, en tout cas, peut faire précipiter un château de cartes qui est déjà bien monté. Et donc l'idée, c'est quand même de pouvoir se faire accompagner aussi au quotidien. Donc on peut faire appel à une TISF, une travailleuse d'intervention sociale et familiale via la CAF. Il peut y avoir un reste à charge en fonction de son quotient familial, mais voilà, c'est quelqu'un qui peut venir comme ça nous soutenir quelques heures par semaine, par du ménage, par garder le bébé pendant qu'on prend une douche, etc. Où il y a des sociétés aussi privées, des entreprises qui ont créé aussi ce système de service, mais du coup, voilà, qui pour le coup là, du coup, est 100% payant, mais qui peut quand même être une aide. Il y a une association aussi qui s'appelle Super Maman France, mais ça fonctionne que jusqu'aux 2 mois du bébé, mais c'est en gros tout est bénévole, donc tout est gratuit. Ce sont des mamans cadeaux qui viennent aider en fait des mamans à bichonner, on appelle ça. Par exemple, voilà, pour un petit peu de ménage, apporter un repas, juste de la compagnie aussi, pour aller, pourquoi pas, faire un tour en poussette, ou voilà, simplement prendre un café pour qu'il y ait voilà, du lien, de l'échange, etc. Ça peut être vraiment aussi des ressources comme ça qu'on peut, associatives, qu'on peut mobiliser. Voilà. Et puis après, bah, c'est aussi, l'entourage, tout ce dont on va pouvoir se saisir en fait, qui va du coup nous faire du bien.
Oui. Voilà. Oui, puis j'imagine rien que le fait de pouvoir se dire, comme tu l'as dit très justement au tout début, le fait de pouvoir se dire, je suis pas toute seule, c'est ok, je commence à comprendre un peu ce qui m'arrive, de pouvoir poser des mots. Je pense qu'il y a déjà quelque chose de thérapeutique là-dedans. Et puis après, bien sûr, des choses qui vont permettre de faire le chemin. Chloé, on va arriver tout doucement à la fin de cet échange, parce que je sais que tu as des impératifs derrière, je ne voudrais pas abuser de ton temps. Il me restait 3 questions, tu peux vraiment y répondre de manière rapide si tu le souhaites, mais je trouverais ça dommage de ne pas l'évoquer. Ma première question, c'était si on a fait une dépression postnatale pour un premier enfant, est-ce qu'on n'est plus à risque pour un deuxième enfant, ou est-ce que parce que justement on a fait tout ce travail en amont, on peut se dire qu'au contraire, ça va se passer beaucoup mieux de par toi, ce que tu as pu constater. Il faut être encore plus vigilante pour le deuxième.
Alors, ce n'est pas du tout une science exacte. C'est quelque chose de très singulier et chaque expérience est unique. En tout cas, on sait que quand on a fait une première dépression postnatale, on a à peu près 50 à 60% de risque d'en faire une deuxième sur un deuxième postpartum. Donc, voilà, parce qu'il y a quand même des vulnérabilités. Alors, on peut, hein, si on en a fait une première et qu'on a vraiment beaucoup travaillé dessus, en tout cas, on va limiter ce risque-là, puisque on va moins décompenser sur certains traumatismes. Voilà. Après, quand même, il y a des dispositions. Alors, on peut parler quand même un peu de génétique, mais on peut parler aussi, en fait, on parle de transmission de vulnérabilité. On sait que notamment si dans la famille, on a des antécédents de dépression, de troubles psychiques, notamment de troubles bipolaires aussi, ou soit familiaux, soit personnels, ça peut être par exemple sa mère qui a fait une dépression postnatale, on sait qu'il y a une transmission de vulnérabilité qui fait qu'on va avoir plus de risques d'en faire venir aussi. D'accord. Donc, il y a des choses qui font que ça va pouvoir être en tout cas, on va pouvoir mettre toutes les choses de notre côté pour que ça soit évitable, mais fondamentalement, on ne peut pas l'éviter. En tout cas, on va pouvoir limiter les conséquences et limiter le degré et l'impact en mettant plein de choses en place en amont, en tout cas en prévenant la chose, mais on ne pourra pas dans tous les cas l'éviter à 100%, ça, c'est pas possible. Si elle doit arriver, elle arrivera. Par contre, souvent, alors, soit on a fait une première dépression postnatale qui n'a pas du tout été accompagnée, et dans ces cas-là, souvent, de façon assez quand même générale, on a plus de risques du coup d'en faire une deuxième, surtout si la première n'a pas été accompagnée, parce que les problématiques qui avaient été soulevées, la dépression postnatale vient soulever quand même des questions, c'est pas juste une... Elle vient mettre des choses en évidence, elle vient appuyer sur un bouton un petit peu d'alarme de ça serait bien que tu t'occupes de ça. En gros, c'est ça qu'elle vient dire un petit peu dans tout ce qu'elle soulève. Et donc, ça permet, c'est pour ça que ça permet vraiment de faire le tri dans sa vie et de se sentir mieux sur l'après. Mais donc, quand même, si la première est passée un peu inaperçue, c'est souvent la deuxième, parfois, qui est plus bruyante, qui permet, du coup, d'aller. Ouais, voilà. Après, on peut aussi déclencher une dépression postnatale sur un deuxième, un troisième, un quatrième postpartum. Parce que des fois, je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas, il n'y avait jamais une femme comme ça. Elle avait eu quatre enfants et la quatrième, c'était une fille. Et ça, c'est venu voilà, lui déclencher plein de choses en elle, du fait que ce soit une fille et qu'il y ait voilà, des choses particulières par rapport à ce bébé-là. Ça peut être aussi par rapport à un accouchement, la façon aussi dont on accouche, les antécédents qu'on peut avoir. Par exemple, je ne sais pas, si on a traversé plusieurs, j'aime pas ce mot, mais fausses couches. Par exemple, je dis des bêtises, mais entre sa deuxième et sa troisième, son deuxième et son troisième enfant, ça peut jouer aussi sur l'impact de ça, ça peut avoir un impact sur aussi ce troisième, justement, postpartum. Donc, c'est pour ça que c'est complètement, c'est pas non plus aléatoire, parce que quand on cherche les causes, il y a vraiment des choses très, très, tangible, et on se dit, ah bah oui, du coup, voilà. Mais c'est difficile d'aller, en tout cas, anticiper. Il y a des études, des fois, qui montrent que sur une primiparité, donc c'est-à-dire sur un premier postpartum, un premier enfant, c'est un peu plus majoré, mais il n'y a rien de franc. Et il y a des études qui contredisent ça, donc c'est pas du tout significatif.
D'accord. Ok. On entend aussi, on va dire, dans cette période de temps du postpartum, on peut parler aussi, alors tu vas me dire, c'est peut-être pas pile le postpartum, mais tu le sais probablement mieux que moi, en tout cas, dans les difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit dans son rôle de mère ou dans la relation avec son enfant, on entend parler parfois de burn-out parental. On a parlé un petit peu du burn-out tout à l'heure, mais en l'occurrence, là, le burn-out parental, je pense qu'on est sur quelque chose de plus spécifique. Plus spécifique encore, et puis aussi de regrets maternels. Est-ce qu'on peut mettre ça en perspective par rapport à la dépression postpartum ? Est-ce qu'on est sur trois choses complètement différentes ? Est-ce que l'un peut entraîner l'autre ? Comment toi, tu viendrais définir un petit peu ça ?
Le burn-out parental, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait, c'est pas les mêmes mécanismes. C'est quelque chose de beaucoup plus environnemental. Les causes sont beaucoup plus externes que dans la dépression postnatale. La dépression postnatale, il y a très souvent une cause interne. Il y a quelque chose de soi qui émerge au moment où on devient mère, en tout cas qui est mis en exergue par rapport à soi. Quand on creuse, il y a toujours quelque chose de soi. Dans le burn-out, ça peut, mais c'est principalement quand même des causes externes qui viennent peser. C'est très souvent une accumulation en fait de stress et de charge. Burn-out, c'est un déséquilibre entre ce qu'on appelle des stressors et des ressources, en fait, qui sont complètement déséquilibrés. Il n'y a quasiment plus de ressources et il n'y a que du stress. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Dans la dépression postnatale, il y a une fracture psychique, en fait. Il y a vraiment, c'est vraiment plus une souffrance interne et psychique avec tous les mécanismes de conflit psychique qui se jouent en soi. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur, quoi, beaucoup plus interne. Par contre, une dépression postnatale, on observe aussi qu'une dépression postnatale non prise en charge peut glisser vers un burn-out. Puisque les problématiques, en tout cas du devenir mère, vont s'estomper, les choses vont se réenfouir un petit peu, et on va glisser vers « j'en peux plus, c'est trop ». Et donc, on va glisser vers justement ce déséquilibre entre les ressources et les stresseurs, et d'autant plus que l'enfant grandit avec toutes les problématiques que ça peut engendrer, qui ne sont pas les mêmes que quand c'est un bébé. Aussi, du coup, la charge mentale qui peut... D'autant plus que, des fois, ça dure sur plusieurs enfants, et donc, avec une charge mentale et domestique qui se majore, en fait, à chaque fois. Et le regret maternel. Oui, le regret maternel, c'est différent. Le regret maternel, c'est un sentiment. C'est pas du tout un trouble, c'est un sentiment, c'est je regrette d'être mère. Donc on peut rencontrer du regret maternel dans la dépression postnatale, on peut faire une dépression postnatale et ressentir du regret, et on peut aussi être dans un burn-out et ressentir du regret. C'est un sentiment. C'est pas caractérisé comme un trouble. Mais ça peut très bien s'ancrer dans un trouble. Et ça peut en être d'ailleurs aussi la cause. Enfin, une des causes. Parce qu'on n'a pas parlé de ça.
Mais c'est mêlé de toute façon.
Bien sûr, c'est pas si simple que ça. De toute façon, dès que ça concerne le champ psychique, c'est jamais... les frontières ne sont jamais marquées. Je voulais juste préciser quelque chose que tout à l'heure, je n'ai pas précisé dans les ressources, mais on peut bien évidemment se tourner aussi vers des structures d'accueil plus générales qui sont quand même la PMI. PMI, c'est quand même un lieu ressources important, je trouve qu'il faut quand même mentionner, avec des équipes pluridisciplinaires qui sont quand même la majeure partie du temps sensibilisées à ces sujets-là, qui souvent d'ailleurs peuvent faire aussi des ateliers. Il y a des psychologues aussi dans certaines PMI, où on peut du coup se tourner vers eux. Il y a des CMP aussi, des centres médico-psychologiques. Alors très souvent, le biais de ça, le problème de ça, c'est que les listes d'attente sont très longues. Mais voilà, ça permet en tout cas des prises en charge, justement prises en charge aussi, parce que... On ne l'a pas dit, mais ça a un coût, en fait. D'aller en thérapie une fois par semaine, ben, ça a un coût. Et tout le monde ne peut pas se le permettre. Et ça aussi, c'est un biais. Malheureusement, le biais financier, il est... Ben, malheureusement, il est très présent aussi. Surtout avec la crise actuelle que l'on traverse. Et puis, on peut se tourner aussi vers des lieux d'accueil parents-enfants où on va pouvoir trouver un petit peu de... En tout cas, ça va lever l'isolement. Parce que l'isolement, on sait que c'est un facteur de risque. Et donc, l'idée, c'est d'aller... c'est de jouer justement sur ces facteurs de risque-là, en tout cas ceux sur lesquels on peut avoir des leviers. L'isolement en est un, le manque de soutien aussi en est un. Vraiment, l'idée, c'est d'aller recréer ce fameux village autour de la mer, ces villages qu'on a perdus malheureusement. Enfin, en tout cas, on est dans des sociétés où déjà les familles sont plus éclatées et puis très individualistes. Hein, c'est un peu chacun chez soi. T'es jeune mère, tu rentres chez toi, tu fermes la porte et puis tu souffres en silence. Quoi. Ce truc-là, on est tous cloisonnés dans notre petite individualité et on partage beaucoup moins en communauté des choses qu'avant. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller se confronter en fait, à des pairs, donc PAIRS, des gens qui vivent les mêmes expériences que nous et en fait, ce partage. Moi, j'anime quand même comme ça beaucoup d'ateliers en fait, entre mères et en fait, ce partage, ce que ça crée, mais c'est incroyable en fait. Ça potentialise justement une thérapie de pouvoir échanger, d'avoir le soutien de personnes qui traversent la même chose que nous.
Et oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, c'est surtout la meilleure thérapie, c'est pas la médication, mais c'est vraiment justement d'avoir un espace de parole. Donc tout ce que tu cites jusqu'à maintenant, ça crée ça, le lien de toute façon. Nous, les humains, nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de ce lien, et on sait que les liens de qualité peuvent ont vraiment un aspect thérapeutique très très puissant. Ok, merci pour ces précisions, Chloé, c'est vraiment très, très intéressant. Je vais terminer sur une petite question qui va peut-être te surprendre, mais tu vois, depuis tout à l'heure, je me disais, alors on parle bien sûr des mères, je suis mère aussi, on sait que les mères, il y a quelque chose d'assez spécifique sur les mamans, mais j'avais quand même envie de te poser la question, est-ce qu'il peut y avoir des dépressions postnatales chez les pères ? Est-ce que chez le père, ça peut aussi venir raviver des choses, comme tu disais, peut-être des traumas, des choses qui, certes, il n'y a pas le vécu de la grossesse, de l'accouchement, de cette période, effectivement, du postpartum qui peut être physiquement, physiologiquement coûteux pour la femme. Mais comme tu disais, on est quand même dans le psychisme. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est fréquent ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est totalement possible. C'est à peu près... Les chiffres varient, hein, c'est comme les mères. Hein, c'est les mères, on est à peu près entre 20 et 30% en fonction des études, en fonction des moments. On parlait avant d'une femme sur 4, maintenant on parle d'une femme sur 5. Le dernier rapport de Santé publique France évoque plus une femme sur 5. Dans les faits, de toute façon, c'est compliqué aussi à mesurer puisque le nombre de femmes qui n'est pas diagnostiquée et qui n'accède pas du coup aux soins, hein, qui passent à travers les mailles et qui se rend compte. Des fois, j'ai des femmes qui m'écrivent qui ont 50, 60 ans, et qui me disent, oh là là, mais en fait, j'ai compris, au moment de la sortie du livre, on a eu beaucoup ce type de témoignages. Voilà. Chez les pères, les chiffres, c'est à peu près 10 à 12% quand même. Donc, bien évidemment, on appelle ça la dépression postnatale paternelle. Notamment, lors du DU que j'ai fait, j'ai eu un cours spécialement sur cette dépression spécifique-là. Bien évidemment que chez les pères, vient se jouer en tout cas la même chose. En tout cas, psychiquement, ça réveille aussi des choses de leur histoire, ça réveille aussi des compétences. Enfin, du coup, ça vient mettre en lumière un peu les mêmes questionnements aussi. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Voilà, tous ces questionnements-là. Sauf que, alors déjà, une mère, c'est pas très bien perçu. Alors, un père, d'autant plus. C'est-à-dire qu'en plus, du coup, justement, il n'a pas accouché. Donc, les pères aujourd'hui sont... Alors, on demande aux pères de s'impliquer plus. Donc, c'est très bien, le partage des tâches, etc. On est vraiment dans quelque chose de... une recherche beaucoup plus égalitaire, avec vraiment un partage de charge mentale, etc. Sauf qu'en fait, on voit quand même que dans la prise en charge, je pense notamment à la grossesse, on inclut très peu les pères quand même. Moi, j'ai souvent des femmes qui me disent bah, « Moi, en fait, quand je suis en consultation, on ne me parle qu'à moi. Quand je vais chez le pédiatre, on y va à deux et le pédiatre ne me parle qu'à moi. Oui. » C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dissonance entre ce qu'on attend, ce qu'on voudrait, le schéma sociétal vers lequel on voudrait tendre, et les pratiques en fait qui sont encore en œuvre en fait aujourd'hui la place qu'on donne en fait au père, en tout cas aux coparents, peu importe hein, quel qu'il soit, dans le soin à l'enfant en fait, ne serait-ce que enfin le congé, si on peut appeler ça un congé post-partum, qui soit pour la mère ou le père, c'est pas du tout la même durée. On est sur presque 3 mois pour la mère, 1 mois pas forcément obligé, mais obligatoire, 7 jours quand même pour le père, avec 1 mois recommandé, on va dire. 8 jours recommandé. Mais donc déjà, on n'est pas sur la même durée. Donc déjà, ça montre bien qu'on n'attend pas du coup la même chose, en tout cas qu'on n'est pas dans les mêmes dispositions. On n'impose pas la même chose à l'un et à l'autre par rapport au fait de s'occuper de l'enfant. On met du coup là l'un et l'autre dans une case spécifique quand on fait ça. Et surtout, les pères, on attend d'eux qu'ils soient chefs de famille, qu'ils prennent, qu'ils enveloppent en fait justement la mère et l'enfant, donc qu'ils soient forts et puis du coup qu'ils en plus, ils n'ont pas accouché, donc ils n'ont pas trop, ils sont pas fatigués, ils n'ont pas trop leur mot à dire. Voilà, c'est très ambivalent en fait entre ce qu'on voudrait et en fait ce qui se passe dans la réalité. Moi, par exemple, j'ai accouché en 2018. Bon, en 2018, c'était quand même il y a 6 ans. Entre temps, il y a quand même eu beaucoup d'avancées, fort heureusement. Mais on appelait mon conjoint de l'accompagnant, quoi. C'était vraiment, il avait un traitement d'accompagnant. Enfin, il n'y avait pas, c'était quand même le papa, quoi. Donc on aurait pu se dire que on était d'égal à égal, vu que c'est ce qu'on attend sur l'après. Mais en fait, dans le traitement, dans la réalité, c'était pas du tout le cas. Il n'avait pas le droit du tout à la même chose que moi, alors que déjà il a fallu demander l'autorisation pour qu'il puisse rester, ce qui paraît et ce qui existe encore aujourd'hui, hein, et ce qui paraît quand même assez assez fou. Et donc les pères, par contre, ça ne se manifeste pas de la même façon. C'est lié aussi justement au comportement qu'on attend d'eux. Enfin, de toute façon, alors aujourd'hui on dénonce ça et on est dans quelque chose, tend vers quelque chose d'un peu moins genré, mais on dit encore aux petits garçons arrête de pleurer, tu n'es pas censé pleurer, on autorise plus les garçons à ressentir de la colère que les filles. Enfin, on est encore dans ces schémas-là. Donc l'homme, du coup, il va surtout nos générations, nous on a été éduqués encore comme ça, la génération de nos enfants, on a espoir qu'on arrive à semer certaines autres graines, mais nous, on a été éduqués aussi comme ça. Et donc, chez les pères, on observe qu'ils vont réprimer beaucoup plus, en fait, la tristesse, et qu'elle va se manifester très souvent par de l'agressivité ou des comportements violents. On observe quand même certains comportements violents qui n'étaient pas auparavant dans ces périodes-là. Alors après, avec tout ce que ça peut venir aussi... tout ce que la période périnatale aussi peut venir réveiller chez le père, de sa mère, le rapport entre sa mère à lui et sa conjointe qui est devenue mère, ça aussi c'est des choses, il y a des conflits qui peuvent se rejouer à cet endroit-là et du coup créer de l'agressivité, du coup des conflits, voire de la violence. Mais on observe souvent aussi des comportements, déviants. Un père qui va se mettre à fumer ou qui va boire un peu trop ou qui va aussi des comportements d'évitement, de la fuite très souvent. Un papa qui va rester par exemple tard au travail, qui va très peu rentrer ou qui va reprendre le sport à outrance, etc. Ça va plutôt se manifester comme ça. Donc en gros, pour être très vulgaire, il va passer pour un gros con. La femme passe pour une chiante et le père passe pour un gros con. Sans pas le tableau. Alors qu'en fait, ça peut. Alors, il y en a qui le sont vraiment, hein, pour le coup. Il y a vraiment des personnes. C'est comme. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. Il y a des fois des parents qui sont toxiques. Hein. Je suis désolée, mais c'est la réalité. Il y a des fois des comportements vraiment. Qui sont pas de cet ordre-là, mais en tout cas la question doit se poser. La question doit se poser de qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement? Qu'est-ce qu'il y a derrière surtout souvent ce changement de comportement? Souvent les femmes disent je ne le reconnais plus. Il y a quelque chose qui a switché. Il y a quelque chose qui n'est pas comme avant. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ça, c'est vraiment à questionner. Mais alors, la dépression postnatale, c'est déjà compliqué chez les mères, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours considéré, identifié. Enfin, on est encore quand même aux prémices. Hein, voilà, ouais, les choses ont changé, les choses bougent, mais c'est quand même des pas de fourmi. Alors, chez le père, voilà, c'est encore plus compliqué. En tout cas, là, pour le coup, il faut vraiment avoir une vraie sensibilité au sujet. Pour pouvoir l'aborder et chercher la chose. Par contre, ce que je peux dire de ça, c'est quand même, on sait que une mère qui va faire une dépression au postpartum, le conjoint, donc le coparent, a 50% de risque d'en faire une aussi derrière. Vous savez, c'est très souvent comme quand on vit un deuil et qu'on est aidant, ça arrive très souvent que la personne qui a été aidante au moment d'un deuil dès qu'on pense, une fois que la personne qu'elle a accompagnée...
Elle, et puis après, quand l'autre va mieux, elle se lâche, elle lâche, et là, du coup, ça arrive. D'accord.
Oui. C'est... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la responsabilité du bébé aussi. Mm. Donc, il y a un espèce de passage de relais sur un mal-être. Voilà. Après, les traits que j'ai donnés sont généraux, c'est ce qu'on observe de façon générale. Après, il peut y avoir aussi des manifestations très... très commune de la tristesse, de l'anxiété, avec des comportements. Peut y avoir aussi des phobies d'impulsion chez les pères. Enfin voilà, peut y avoir aussi des similarités, mais c'est vrai qu'il y a des spécificités quand même qui sont à connaître.
Mmh, bah oui, tout à fait, tout à fait.
Et la prise en charge est la même, bien évidemment, que pour une femme.
Merci beaucoup, Chloé. C'était passionnant. Je pense que c'était extrêmement c'était très riche et ça éclaire beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que derrière ce terme-là, on peut y mettre un peu tout, d'une petite tristesse passagère à quelque chose de vraiment, vraiment significatif qu'il ne faut surtout pas mettre sur le tapis. Donc merci, merci pour tout le travail que tu fais, bien sûr, dans le quotidien. Merci d'avoir pris du temps pour nous partager tout ça sur Allo Fais Dodo et pour venir donner encore plus de billes à notre communauté pour faire des choix éclairés, être le meilleur parent possible et puis surtout le meilleur... vivre bien sa parentalité. Est-ce que tu peux nous rappeler, avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on te retrouve, Chloé? Tu nous as parlé du coup de ton livre, tu nous as parlé de ton association, tu as un site internet aussi, on te retrouve bien sûr sur Instagram. Quelle est la meilleure porte d'entrée?
Du coup, sur Instagram, on peut me contacter sur Instagram, je réponds aux messages, donc c'est Mal de Mère. Et puis sur mon site, si on peut aller du coup sur mon site, si on veut plus d'informations sur mon activité, ce que je fais, si on veut prendre rendez-vous, voilà. Mais généralement, c'est la porte d'entrée majeure, généralement, c'est sur Instagram.
Super, merci. Bien évidemment que je mettrai tous les liens qui ramènent vers ton travail dans la description de ce podcast pour qu'effectivement, on puisse te retrouver le plus facilement possible. Bonne continuation, Chloé. Merci beaucoup. À très bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo Fais Dodo!